Un bruit. Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les ronds-points.
En direct du studio 511, une émission réalisée sans avantages fiscaux par Clément Nouguier, assistée de June Loper, avec Christian Grattalon à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, un an après la suppression de l'impôt solidarité sur la fortune, 70% des Français seraient pour son retour, y compris certains patrons. Des gilets jaunes aux organisations caritatives, en passant par les business angels de la Startup Nation, où en est la justice fiscale?
Donc la Startup Nation, elle se porte bien, malgré le fait que la nation tout court, elle soit peut-être un petit peu chahutée en ce moment.
Madame Martin, vous pouvez me sortir mon impôt sur le revenu et mon ISF, vous l'avez?
Il faut soulager nos gentils riches de l'ISF.
Jackpot! Macron, c'est jackpot!
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits?
Et oui, c'est jackpot. C'est l'anniversaire de la suppression de l'ISF. C'est cadeau, c'est Noël. Mais peut-être pas pour tout le monde, non. Sur quelques ronds-points, ça grince encore des dents. À Marmande, par exemple, ça bloque toujours ce matin. Et même parmi les quelques 360 000 euros gagnants de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, quelques-uns s'interrogent. Parce que les mots ont un sens. Et la solidarité en a un aussi, n'est-ce pas Charlotte?
Patron rendait l'argent de l'ISF, mais aussi du CICE. Et pour une fois, c'est un patron qui en bénéficie qui va nous le dire, feuille d'impôt à l'appui.
Pas de panique, le président ne sera pas exfiltré de l'Elysée, l'hélicoptère, ce sera pour les sports d'hiver. C'est la trêve des confiseurs et des hostilités. Mais dès l'année prochaine, il faudra bien les tenir les promesses. Et avec le prélèvement de l'impôt à la source et l'augmentation des prix du péage, par exemple, ça pourrait repartir dardard sur les ronds-points. Et le grand slalom social reprendra de plus belle pour l'exécutif. Les canons à eau à la place des canons à neige et les gilets jaunes seront toujours disponibles dans les voitures, sauf revenir sur le code de la route. Mais pourquoi pas, on est bien revenu sur l'ISF il y a tout juste un an, Give.
Oui, mot d'ordre des gilets jaunes, repris par tous les syndicats, à l'exception prévisible du MEDEF et même le Parti Socialiste. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune serait un vœu partagé d'après l'IFOP par 70% des Français, je vous le disais. Beaucoup en font un symbole de la justice fiscale, mais d'autres alertent aussi sur les dommages collatéraux très concrets sur les associations humanitaires. Et même les start-up. Les plus riches contribuables n'étant plus redevables, plus besoin de donner aux bonnes œuvres pour bénéficier de niches fiscales. Conséquence, leurs dons ont diminué de moitié.
Comme un bruit qui court, la fin de l'ISF, acte fondateur ou péché originel, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Il y a un an, l'Assemblée nationale votait la suppression de l'ISF.
Rendez l'ISF d'abord !
Une réduction d'impôts d'un peu plus de 3 milliards.
Depuis quelques semaines, cette revendication, on la lit sur les pancartes des Gilets jaunes.
Il faut qu'ils y remettent l'ISF.
Qu'ils rétablissent l'ISF.
Surtout, ils remettent l'ISF.
J'y remette l'ISF.
Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux ?
Bernard Tapie, supprimer l'ISF, ça a été une erreur ?
Sûrement pas, et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi l'OM était champion d'Europe ? Dans l'OM, il y avait les meilleurs joueurs du monde, etc.
Donc
pourquoi
il faut donner au premier de cordée, et ça bénéficie à tout le monde, c'est ça ?
C'est pas ça.
Nous avons choisi de réduire la fiscalité sur le capital. Parce que notre pays a besoin d'investisseurs, nationaux et étrangers. C'est un choix de stratégie économique totalement assumé.
L'argument selon lequel il faut supprimer l'ISF pour encourager le financement de l'investissement et des entreprises est un enfumage de très haute qualité.
Oh, bruit qui court !
Rétablissement de l'ISF, c'est réglé, ça sera pas le cas ?
Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne mesure.
Rendez l'ISF d'abord, monsieur le président.
Antoine Chao !
Ça serait une erreur de revenir sur la quasi-suppression de l'ISF ?
Bah oui, c'est une erreur.
Rendez l'ISF d'abord !
Charlotte Perry !
Rendez l'ISF d'abord !
Qui manque-t-il ?
Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
Hashtag comme un bruit !
Restaurer l'ISF, augmenter les salaires.
Je vois que vous êtes dans la manifestation là ce vendredi, ouais. Avec un grand panneau autour du cou. Ouais. Rendez-nous l'ISF.
Bah oui, c'est une question de justice fiscale. Tout pour les riches, rien pour les pauvres, quoi. Voilà, c'est tout, c'est une question de moyens, il faut savoir chercher l'argent là où il est. Les riches, ils n'investissent pas dans l'économie, c'est faux. Ils accumulent, ils cherchent pas à être utiles, ces gens-là. Bah, faut les forcer à payer.
On va le doubler, lui, là.
Ouais, je pense que c'est mieux.
On est boulevard Voltaire.
On est dans le 11e boulevard Voltaire. La manif du vendredi 14 décembre.
Alors je rassure tout de suite les auditeurs, ce sont des pétards.
Tout à fait, c'est des pétards comme dans toute bonne manif. Un peu de pétard, un peu d'ambiance, ça fait du bien. Alors bonjour, je suis Olivier Vadebout, secrétaire général de la CGT Finances Publiques, qui représente les agents des finances publiques, donc plus communément connus sous le terme des impôts.
Et là, c'est quoi le mot d'ordre de la manif aujourd'hui ?
Le mot d'ordre, c'est sur l'augmentation des salaires. Puisqu'aujourd'hui, une des difficultés premières des Français, c'est quand même d'être assez mal payé par rapport au travail qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui touchent le plus d'argent, ça reste les actionnaires et pas les salariés ou les fonctionnaires.
Et ça, vous êtes bien placé pour le dire, puisque de par votre fonction aux finances publiques, c'est-à-dire les impôts, vous voyez où rentre l'argent, d'où il rentre et où il va.
C'est surtout, on voit d'où il rentre pas. Et on sait que de grande partie de la population, celle qui a les moyens les plus aisés aujourd'hui, ne paye pas l'impôt à nos yeux qu'il devrait payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de dispositifs qui ont été votés, qui leur permet largement d'éviter l'impôt. Il y a eu la suppression de l'ISF, il y a la mise en place de la flat tax, qui signifie qu'en gros, plus vous avez d'argent, moins vous avez de chances de payer d'impôts.
C'était une des promesses du candidat Macron. Supprimer l'impôt sur la fortune et remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière. Une taxe assise uniquement sur le patrimoine immobilier et qui exclut les placements financiers.
C'est un classique, augmenter les salaires, pas les actionnaires. C'est la base, le travail contre le capital.
Et alors, en ce moment, dans le climat social en France, entre gilets jaunes et aujourd'hui, là, c'est les gilets rouges, à peu de choses près, cette colère qui était née sur la taxe écologique, elle s'est étendue à une revendication plus vague, mais aussi plus générale, sur l'injustice fiscale.
Oui, injustice fiscale qui est réelle. La première mesure du président de la République, quand il est arrivé, c'est de supprimer l'ISF. Suppression de l'ISF qui a coûté 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros qu'on est en train de chercher par différentes taxes diverses et variées, mais qui pèsent en gros sur les plus pauvres d'entre nous. Et on a tendance de dire 1% des Français ont 50% du capital. Bon ben voilà, c'est 350 000 personnes, c'est-à-dire pas grand monde. Aujourd'hui, en supprimant l'ISF, on a juste donné du pouvoir d'achat en plus à des gens qui en avaient déjà beaucoup pour en retirer à ceux qui en avaient moins.
C'est-à-dire que voilà, toutes ces mesures incitatives pour l'investissement ont un coût et justifient des mesures d'économie encore annoncées sur la fonction publique, sur les services, etc. En quoi on peut retrouver un peu les cris de colère des gilets jaunes ?
Quand on entend sur le territoire, avec des mobilisations à certains nombre d'endroits de gilets jaunes, dire on n'a plus de service public, il n'y a plus d'école, l'école est partie, la perception est partie, la poste n'est plus là. Quand on entend ça, on se dit mais si on mettait l'argent qui est aujourd'hui en train de se balader à droite à gauche, qu'on ne veut pas récupérer par choix politique, on pourrait faire des écoles un peu plus partout, on pourrait faire des routes plus simples. C'est concrètement moins de rentrées fiscales, ça veut dire qu'on supprime des fonctionnaires. Nous, ça fait plus de 30 000 en 10 ans, et cette année, alors qu'on a en plus une réforme importante, le prélèvement à la source, on a 2150 suppressions d'emplois supplémentaires. Donc moins de fonctionnaires pour contrôler les dépenses, faire du contrôle fiscal. Voilà, ça c'est très concret, les finances publiques et la suppression de l'ISF.
C'est quand même dingue qu'on en soit à défendre des contrôleurs fiscaux, quoi, les contrôleurs des impôts.
Je sais que souvent quand je vais dans une soirée et que je dis que je travaille aux finances publiques, on me dit « Ah, il en faut !» Un peu genre contrit. Mais plus on est riche, moins on a de chances de payer de l'impôt. Voilà. Plus on a de systèmes pour défiscaliser, plus on a de possibilités de mettre de l'argent à droite, à gauche, plus on a de possibilités d'optimiser. Et ça ne peut pas fonctionner. Il faut que chacun contribue à raison de ses moyens au fonctionnement de notre société.
On a gardé l'impôt sur la fortune quand il est investi dans l'immobilier. Mais on a enlevé l'impôt sur la fortune pour tout ce qui était investi dans l'économie.
Et donc, sûr que cet argent n'ira pas dans la spéculation.
Mais je n'ai pas plus de garantie que vous. Il faut évaluer, donc moi j'évaluerai dans 2 ans. Nous avions des centaines de milliers d'entrepreneurs qui vendaient leur entreprise et qui, parce qu'on les taxait à l'impôt sur la fortune, alors même qu'ils voulaient réinvestir dans le pays,
bonjour,
s'en aller.
Oui, donc Vincent Drezet du Bureau National de Solidaire Finances Publiques, le premier syndicat de Bercy.
Et là, je vous retrouve dans un bureau où il y a plein de dossiers, plein de documents, parce que vous autres, agents des impôts, avez été aux premières loges des premières mesures prises par notre gouvernement et notre président, l'ISF, puisqu'on en entend tellement parler dans les manifestations. Jusqu'à l'année dernière, c'était 360 000 administrés qui payaient l'ISF, c'est ça ?
On avait environ 360 à 370 000 redevables de l'ISF qui rapportaient un peu plus de 5 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas rien. Alors même si l'ISF en tant que tel n'était pas parfait, hein, il y avait des niches fiscales à l'ISF, il y avait des stratégies de contournement de l'ISF, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ISF avait au moins un mérite, c'est que taxer le stock du patrimoine se justifie pas simplement sur le principe généreux de la solidarité, mais aussi du point de vue budgétaire bien sûr, et économique, c'est une manière de taxer la rente. Keynes disait qu'il faut euthanaser la rente parce qu'elle est anti-économique. Donc l'ISF, sans être parfait, malgré tout, faisait contribuer les plus riches et permettait quand même de taxer le patrimoine. Là, en 2017, on a eu une accélération au travers de trois mesures très emblématiques qui sont la baisse de l'impôt sur les sociétés, parce que baisser l'impôt sur les sociétés à la fois rapporte moins d'argent à l'État pour financer les services publics, mais permet aussi aux sociétés de distribuer plus de dividendes. Et donc, d'ailleurs, on a vu que la France était un record de ce point de vue-là.
C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement pour réinvestir et créer de l'emploi, mais c'était pour rétribuer les actionnaires.
Absolument. Baisser les prélèvements de manière générale, fiscaux ou sociaux sur les entreprises, a permis aux grandes sociétés françaises non pas d'investir, mais de distribuer des dividendes. On a eu l'année dernière un record de ce point de vue-là, et a priori, 2018, ça sera du même acabit. Donc,
on est au moins champion de quelque chose, la France.
Oui, alors malheureusement, on aurait préféré être champion ne serait-ce que de l'investissement, hein, privé ou public par ailleurs. Mais de ce point de vue-là, on est champion du monde de distribution de dividendes. Mais l'affaire s'est pas arrêtée là. Une fois qu'on distribue plus de dividendes, eh bien, normalement, on subit un impôt sur le revenu. Mais le gouvernement actuel a décidé de baisser l'imposition des revenus financiers. Ça, c'est la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique à 30% et impôt sur le revenu, CSG compris. Ça procure une économie d'impôt substantielle pour ceux qui ont des actions. Or, il se trouve qu'au sein des 1% des Français les plus riches, les revenus d'actions représentent une majorité des revenus. Et puis, troisième temps, on a supprimé l'ISF. En réalité, on a créé un impôt sur l'immobilier, mais on ne taxe plus le stock d'actions. Ce qui veut donc dire que toute la stratégie fiscale du gouvernement a été une stratégie pour le capitalisme actionnarial, c'est-à-dire qu'on a créé toutes les conditions pour reconstituer une rente financière qui aggravera les dérives de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la pression sur les coûts salariaux, la pression sur l'investissement. Bref, on a créé une machine infernale à augmenter les inégalités sans avoir de résultats économiques pour autant. De nombreux économistes de renom, d'ailleurs, confirment que ces décisions sont particulièrement néfastes sur le strict plan économique.
Moi, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron a fait une grande erreur.
Thomas Piketty.
En passant son temps à parler des premiers de cordée, du fait que la priorité des priorités, c'était d'accorder cette baisse d'impôt sur la fortune, cette priorité. Vous savez, c'est assez rare en politique qu'on voit aussi bien une situation où vous avez un gouvernement qui a clairement de l'argent pour certaines personnes et qui n'en a clairement pas pour d'autres. C'est-à-dire, d'habitude, c'est plus caché, c'est plus compliqué. Là,
todo vuole el pognon,
pognon, pognon,
que presto como un limón,
citron, citron,
me dices evolución,
evolución,
y te debo una evasión,
delocalización,
una sola religión,
pognon, pognon,
todo por el pognon,
pognon, pognon.
Emmanuel Macron est parti là-dedans, bille en tête. Il va falloir qu'il rétablisse l'ISF pour consacrer l'argent à la transition énergétique. Un capitalisme plus social, moins inégalitaire. Là, il y a vraiment, on est à une bifurcation.
Pour qu'il n'y ait pas des vinos, l'administration, parachitos de euro,
avion, avion,
des bibos au casino,
fiscal nichon,
une mojito au pichon,
relaxation,
maintenant que t'as pour rien,
pigeon, pigeon,
fais la guerre à ton voisin,
mignon, mignon.
Et justement, Vincent Droizet, comment on peut mesurer, avoir une idée de cette injustice fiscale qui a été rendue possible par la suppression de l'ISF? Il y a des dossiers qu'on peut voir, il y a des cas précis.
Il y a des cas forcément anonymisés puisque le secret fiscal existe en France. Mais si on prend un exemple un peu parlant, considérant une personne qui a 150 000 euros de revenus et puis qui a un patrimoine de 3 millions d'euros composé surtout d'actions. Eh bien, cette personne qui payait un peu plus de 15 000 euros d'ISF, aujourd'hui n'en paye pas, donc a économisé 15 000 euros. Accessoirement, ses actions lui ont procuré des revenus qui sont aujourd'hui moins imposés qu'avant. Et donc, dans un exemple où une personne gagne 50 000 euros de dividendes avec par ailleurs 100 000 euros d'autres revenus, eh bien, cette personne gagne plus de 20 000 euros sur l'ISF et grâce au prélèvement forfaitaire unique également. 20 000 euros pour une personne qui a 150 000 euros de revenus, c'est-à-dire c'est pas monsieur tout le monde, on imagine ce que peut être le gain d'impôt lorsqu'on est sur des patrimoines de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros.
Quand on est dans les 1%.
quand on est même dans le 0,2-0,1% des Français les plus riches. Là, aujourd'hui, c'est un impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est uniquement sur les biens immobiliers, ce qui fait que tout ce qui est bien meuble, on pense notamment, il y a eu une petite discussion sur les yachts, les voitures de collection.
Les etc. jets privés.
Les jets privés, donc tout ça n'est pas taxé.
Oui, donc ça, je peux, si je suis milliardaire, je n'ai pas de souci avec autant de yachts que de jets que je veux.
Oui, absolument. Vous pouvez avoir des yachts, des voitures de collection. Tout ça ne rentre pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Et cette injustice fiscale, elle est chiffrée, puisque ce n'est pas une économie d'impôt pour toute la population, c'est une économie d'impôt pour les plus riches. C'est mathématique, c'est pas idéologique, c'est une économie d'impôt du fait de la suppression de l'ISF, donc c'est un manque à gagner. Et quand l'État a un manque à gagner, de deux choses l'une, soit il joue la rigueur budgétaire et il sacrifie les services publics, soit il va chercher des impôts ailleurs, éventuellement même il fait les deux. Et donc tout ça accroît l'injustice fiscale, et in fine, ça dégrade le consentement à l'impôt. Or, faut jamais oublier que le consentement à l'impôt dans une démocratie, c'est un pilier.
La directrice de l'IFRAP est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Agnès Verdier-Molinier.
Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes aussi une sorte d'égérie de la pensée libérale. En tous les cas, les hommes politiques s'inspirent de votre livre qui est un best-seller qui s'appelle On va dans le mur. Vous dites encore la France va dans le mur aujourd'hui.
C'est presque du sang et des larmes, comme le disait Winston Churchill, que vous promettez aux Français. Si le président applique votre programme, vous êtes d'accord avec ça? Du sang et des larmes?
Je suis très content de vous rencontrer, Agnès Verdier-Molinier.
Bah, moi aussi.
Parce que, voilà, je lisais encore en venant un article du Figaro, vous êtes présenté comme le nouveau gourou libéral.
Ouh là là.
C'est pas mal. Et si je regarde les livres là, qui sont là, sur les étagères, alors c'était les derniers en date, je vois, Les fonctionnaires contre l'État, le grand sabotage, ça c'était en 2011. 60 milliards d'économies, oui, mais tous les ans, ça c'était en 2013. On va dans le mur, il faut agir d'urgence, 2015. Votre dernier bouquin était 30 000 déjà vendus.
30 000.
En marche vers l'immobilisme, le choc de complexité. Donc, si je comprends bien, Agnès Verdier-Molinier, vous êtes un déçu des réformes promises et de l'élan libéral promis avec la candidature Macron.
Pourquoi? Parce qu'on fait un petit peu de tout, mais pas forcément très en profondeur.
Mais alors, justement, revenons à l'actualité brûlante de ces dernières semaines avec les Gilets jaunes. J'imagine que vous, au tout début, une révolte populaire hors syndicats et hors partis politiques de simples citoyens contre les taxes, ça devait vous porter du baume au cœur.
Bah, en fait, moi, je ne souhaite pas des révoltes citoyennes parce que je pense que c'est toujours compliqué. En revanche, c'est vrai que le ras-le-bol fiscal était latent et qu'il allait revenir, mais il ne faut pas avoir une fiscalité punitive. La fiscalité, elle doit être incitative à tous les niveaux, plutôt que de monter les gens les uns contre les autres, les Français les uns contre les autres, puis les héritiers contre les non-héritiers, etc. Puis, enfin, se dire qu'est-ce qui nous tire vers le haut et qui nous permet de créer un dispositif pour que les projets de ceux qui ont moins et qui ont des idées, des talents, etc., soient financés par ceux qui ont des moyens, plutôt que de les faire partir à l'étranger par une surfiscalité, se poser la question de qu'est-ce qui serait incitatif et qui leur permettrait de rester en France et d'investir en France.
Alors, il y avait une mesure, pour le coup, qui était censée créer de l'emploi et favoriser l'investissement, c'est la suppression de l'ISF.
Oui, cette...
Et voilà que les Gilets jaunes, après être d'accord avec vous sur les trop de taxes, eux, ils commencent à réclamer le retour de l'ISF.
Oui, parce qu'on est dans la réflexion, finalement, qui est un peu facile. C'est-à-dire que l'ISF, c'est 3 à 4 milliards d'euros de baisse d'impôts par an. Sachant que même avec ces baisses d'impôts-là, on est toujours dans un des pays qui taxe le plus les revenus du capital.
Hein? Oui, mais attendez, on est aussi dans le pays où il y a des dividendes records.
On est clairement dans le pays qui désincite les investisseurs. Je passe beaucoup de temps à voir des Français expatriés. Malheureusement, j'en suis très triste parce que ce sont souvent des entrepreneurs, des gens de qualité qui ont plein de talents et qui, quand on leur demande est-ce que vous allez revenir en France, ils disent non parce que comme ils voient que la dépense publique ne baisse pas, ils savent bien qu'un jour ou l'autre, on remontera la fiscalité du capital.
Et voici notre duel avec Thomas Porcher ce soir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Économiste, membre des économistes atterrés.
Alors, sur l'ISF, il y a des chiffres du ministère des Finances qui sont assez intéressants. Il n'y a pas une fuite comme s'il n'y avait plus personne qui payait l'ISF. Les départs, ils sont estimés. Vous avez 500 personnes, grosso modo, qui quittent la France. Donc, ça fait 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Donc il faut arrêter. L'argument de la fuite, elle n'existe pas. C'est 0,2% de personnes qui partent à cause de l'ISF, c'est tout.
Agnès Verdier-Meunier.
L'ISF n'est pas le problème. Pourquoi ? Parce que ça ne résoudrait rien de le remettre en place. Et le problème, c'est qu'à terme, ça risque de monter les Français les uns contre les autres. Et ça, c'est délétère pour la société. Parce qu'on a tous besoin, finalement, les uns des autres. Bah oui, il y a des moins aisés, des moyens, des plus aisés. Mais finalement, si on fait partir ceux qui sont en haut, ça ne résoudra pas le problème de ceux qui cherchent du boulot et qui sont au RSA. Donc, à un moment, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui peut permettre que tout le monde soit plutôt tiré vers le haut plutôt que tiré vers le bas.
Et c'est ça qui vous inquiète dans cette revendication d'un retour à l'ISF, c'est qu'on pointe du doigt ceux qui profiteraient du système, c'est-à-dire les 0,1%.
Mais le sujet, c'est aussi qu'on n'a pas regardé l'aggravation des impôts pour ces mêmes personnes ces dernières années. Même aujourd'hui, même avec la suppression.
Bah alors...
Donc on n'est même pas retourné au niveau de fiscalité pesant sur les revenus du capital d'avant Nicolas Sarkozy.
Mais je vais avoir du mal, je vous avoue, à expliquer ça si je vais sur un rond-point en disant « mais oui, ils ont été soulagés, mais ils ont beaucoup contribué auparavant ».
Oui, ils payent énormément d'impôts proportionnellement par rapport aux autres. Et c'est eux qui ont la charge fiscale la plus élevée. Donc à un moment, il faut peut-être se poser la question de « est-ce que notre système n'est pas à l'envers par rapport à ce qui est notre intérêt commun ?» Quand vous êtes imposé à plus de 60 ou 70%, ça devient confiscatoire.
C'est ça les rigidités françaises que vous dénoncez à la longueur d'essai.
À longueur d'essai, oui, parce que au final, ça ne permettra pas de financer les baisses d'impôts beaucoup plus importantes qu'il faudrait faire sur l'ensemble de la fiscalité, parce que c'est pas 10 milliards de baisses d'impôts qu'il faudrait faire en France, c'est plutôt 80 milliards.
Ah oui.
Mais bien sûr. C'est comment on fait pour baisser ce qu'il y a à financer.
C'est pour ça que la solution que vous proposez, plutôt que toucher à l'ISF et de revenir sur l'ISF, qui serait d'après vous une hérésie, moins de dépenses, moins de fonctionnaires, alléger l'État, c'est un peu ce que disait Claude Allègre, dégraisser le mammouth, et passer en tout privé.
Pas forcément du tout privé, mais du privé et du public potentiellement en concurrence, parce que soit on décide vraiment de revoir l'ensemble des missions publiques et de la dépense, soit on va continuer à se crêper le chignon
sur les ronds-points et à l'Assemblée.
Oui, avec finalement une vision qui n'est pas une vision qui est favorable au meilleur développement de notre économie. Donc on a tous intérêt à ce que la fiscalité soit plus basse partout.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci. Prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phone, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Bonjour. Vous avez un grand panneau en carton.
Ouais.
Pendant cette manif, la boulevard Voltaire à Paris, il y a écrit...
Il y a écrit « Travaille, consomme et ferme ta gueule », c'est le message qu'on adresse aux jeunes. Et franchement, c'est la réalité, parce qu'on ne nous donne pas le droit de parole. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on ne nous laisse pas parler. On nous dit seulement de travailler, de consommer et de nous taire. Gagner 93-220, c'est le lycée Gustave Eiffel, exactement, c'est ça. Moi, je suis lycée en terminale ES.
C'est en plein sur les sujets d'économie.
Exactement, pour faire une licence sciences politiques. D'un côté, on nous supprime l'ISF et on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent, alors que de l'autre côté, on sélectionne parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent non plus.
Et alors, l'ISF, c'est important ou pas? Parce qu'on dit, ouais, mais laissez-les tranquilles, c'est les riches qui veulent investir.
L'ISF, c'est important, certes, c'est un petit pourcentage, mais quand ce petit pourcentage s'accumule, ça fait d'énormes sommes qui pourraient être très importantes et non négligeables.
Vincent Drosé, Solidaire Finances Publiques.
On ne peut pas s'arrêter au mouvement des Gilets jaunes en disant ils ont cassé aux Champs-Élysées. Évidemment, on condamne toute violence. On ne peut pas s'arrêter aux contradictions qu'il peut y avoir. C'est vrai, quand on entend il faut plus de services publics et moins d'impôts, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Il faut entendre ce ras-le-bol qui n'est pas qu'un ras-le-bol fiscal, c'est un ras-le-bol de l'injustice fiscale et sociale. C'est ça la question d'aujourd'hui. Donc, quand il y a une demande de dire rétablissons l'ISF, c'est d'abord une demande de plus grande justice fiscale qu'il faut entendre. Et c'est au fond le désir d'avoir un système fiscal où on est à peu près sûr que ce qu'on paye, eh bien, c'est moins que celui qui gagne plus et plus que celui qui gagne moins. tout ce pan du raisonnement est totalement oublié, il est nié par une idéologie qui veut simplement ouvrir au secteur marchand la protection sociale et les secteurs publics. Depuis un certain nombre d'années, on nous dit, et encore cette année, nous sommes parmi les pays qui ont le plus haut niveau de prélèvements obligatoires. Si on baisse tout, ça veut donc dire que la protection sociale, une partie de l'assurance maladie, pourquoi pas les retraites avec des fonds de pension, une partie des services publics, tout ça sera privatisé. Si c'est privatisé, ça aura un coût. Il faudra que les usagers se le payent. Au lieu de le payer par des impôts et des cotisations sociales, ils se le paieront de leur poche. Simplement, ceux qui n'auront pas les moyens en seront exclus. C'est ça le débat de société que révèle finalement, sans même forcément le poser, le mouvement des Gilets jaunes. C'est le seul vrai débat de société à avoir. Une fois qu'on débat de ça, eh bien, ceux qui sont pour le tout marché le disent, mais pour les autres, il reste à organiser les prélèvements pour qu'ils soient plus justes et plus compris. Et c'est aussi un des enjeux de la période.
Et justement, Vincent Drezet, vous parliez des niches fiscales. Un des dégâts collatéraux de la fin de l'ISF, c'est la fin des niches fiscales qui y étaient associées et qui ont eu des conséquences, semble-t-il.
C'est ça qui est assez curieux, c'est qu'on a assisté dernièrement à deux débats, si j'ose dire, concernant la suppression de l'ISF, à savoir le débat sur le mécénat, puisqu'il y avait une réduction d'impôt à l'ISF pour le don aux œuvres, et puis une réduction sur l'investissement, notamment dans les PME. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir supprimé l'ISF a donc supprimé ses niches fiscales et a donc supprimé l'intérêt d'investir. Avec la suppression de l'ISF, on a donc créé des effets pervers tout en se privant de recettes.
Your call will be connected when you enter the PIN followed by the pound key.
I want France to be a startup nation.
Nous devons devenir la nation des startups ou une startup nation. Une start-up nation, c'est aussi une nation où tout le monde peut se dire qu'un jour, il va pouvoir créer une start-up. C'est cela l'esprit start-up.
You have joined the call, but you are the only one here.
Bah, j'ai rendez-vous pourtant avec...
Antoine Basquira.
Antoine Basquira, fondateur d'Early Metrics, une agence de notation spécialisée dans la start-up. On m'a donné rendez-vous pour un entretien en ligne via une connexion sur un numéro américain en rentrant un code PIN. Mais je suis tout seul dans le vide numérique pour l'instant.
You have joined the call, but you are the only one here.
Bon bah, je vais essayer à l'ancienne avec un vrai numéro de téléphone. Peut-être que j'arriverai à joindre la Startup Nation.
Allô ?
Oui, Antoine Basquira ?
Oui, c'est moi-même.
Je vous dérange en pleine réunion, c'est ça ?
Non, non, pas du tout, au contraire, je te dis.
C'est une fin d'année assez mouvementée dans tous les domaines sociaux et économiques, semble-t-il, bien et politiques. Ouais. Et vous, Antoine Basquira, vous êtes bien placé pour avoir une vue d'ensemble un peu de l'état de la Startup Nation, si je ne m'abuse.
Oui, donc Early Metrics, on est une agence de notation de start-up et PME innovantes. Ah, donc on est présent à Paris, Londres, Tel Aviv et Berlin, et on a noté un petit peu plus de 2300 startups pour le compte de 250 clients qui sont des investisseurs et des grands groupes.
Ceux qu'on appelle les business angels.
Alors non, nous on va plutôt travailler pour des fonds d'investissement et pas forcément les business angels qui sont plutôt des particuliers, que eux investissent de moins en moins justement parce que les business angels, l'activité d'investissement des business angels dans les startups était quand même plutôt soutenue par cette mesure fiscale qui était la niche sur la réduction de l'ISF qui n'existe plus aujourd'hui.
C'est ça, on pouvait déduire, enfin défiscaliser une partie de son ISF en investissant dans des startups si on était un riche fortuné, quoi.
Exactement. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus.
Mais alors, est-ce que ça fait un manque à gagner justement pour l'écosystème des startups, le fait qu'il n'y ait plus cet argent qui arrive via la suppression de l'ISF?
Je trouve que ces financeurs-là, ces business angels, ils avaient tendance à investir dans des très jeunes sociétés. Et donc, pour ce type de société-là, c'est un manque à gagner, ou en tout cas, l'argent va être moins facile à trouver pour ces très jeunes sociétés.
Et je passe un peu du coq à l'âne, mais les estimations sur la durée de vie moyenne d'une start-up, celles qui prennent et celles qui ne prennent pas.
Oui, c'est assez intéressant, on le voit. Alors aujourd'hui, l'estimation qu'on réalise, c'est qu'on est à peu près à 10% par an de taux de mortalité. Donc vous allez voir, à 5 ans, la moitié des startups et des PME innovantes ne sont plus debout. Et c'est là où on voit une frontière assez forte à 3 ans et à 5 ans.
Et la dernière question, je pensais, parce qu'on parlait de la durée de vie des startups qui est assez précaire, est-ce que c'était pas une très bonne idée de choisir pour la présidence l'idée de Startup Nation, si nous aussi on a une durée de vie assez précaire comme une startup?
Non, j'espère que c'est pas le cas en tout cas. J'espère que c'est pas le cas et ce qu'on peut peut-être avoir pour faire un petit parallèle, c'est le côté test and learn, vous savez, test et apprend, qui est un petit peu la devise des startups. Bon, ben, c'est vrai que là...
Là, c'est un bon test, là, les gilets jaunes pour la Startup Nation.
Exactement. Ben, est-ce que notre gouvernement ne se l'est pas un peu appliqué à lui-même, à ses dépens, peut-être? Ils ont testé, tout n'a pas marché. Voilà, on a une durée de vie à 5 ans, je reste quand même, moi, de mon côté, assez confiant. Mais oui, le côté test et apprend, donc la Startup Nation, elle se porte bien, malgré le fait que la nation tout court, elle soit peut-être un petit peu chahutée en ce moment.
Seulement, il y a un petit problème. Et depuis cette réforme fiscale, eh bien, certaines ONG, certaines fondations, et la plupart d'ailleurs, s'inquiètent parce qu'ils vont avoir moins de dons.
260 millions d'euros en moins. La suppression de l'impôt sur la fortune. Fini l'avantage fiscal lié à cet impôt. Il pouvait atteindre 50 000 euros par an. Résultat, bon nombre de ces riches contribuables se sont révélés moins généreux.
Bonjour et bienvenue à l'Institut Pasteur. La Fondation Abbé Pierre s'efforce d'écourter votre attente.
Reste du cœur, bonjour.
Bienvenue chez Action contre la faim Paris.
La Ligue contre le cancer, bonjour.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Et les associations ont vu leurs craintes confirmées.
Tout à fait, oui. Les Restos du cœur, c'est de l'aide alimentaire. Le remplacement par l'IFI a eu un impact tout à fait sensible, puisqu'en gros, on a perdu 70% des dons ISF. On a perdu exactement 850 000 euros.
En ce qui concerne la Fondation Abbé Pierre, c'est une diminution à peu près des deux tiers des montants que permettait cette défiscalisation via l'ISF. Donc pour la Fondation, ça doit s'élever aux alentours de 600 000 euros.
Ça peut être entre 5 et 7 millions d'euros de baisse. C'est vraiment catastrophique. Hein. C'est la plus grosse baisse de l'histoire de la Ligue contre le cancer.
On a constaté une baisse liée à l'ISF qui est de 70%. Avec également une chute du montant moyen du don, on était à 1050 euros l'année dernière, on passe à 650 euros cette année.
Ce qui concerne l'Institut Pasteur, c'est simple, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière a eu un impact de moins 50% sur la collecte réalisée dans le cadre de cet impôt. C'est considérable parce que 1 million d'euros, c'est ce que coûte à peu près par an une unité de recherche qu'il faut supprimer à l'Institut Pasteur.
Aucune association n'a été épargnée par cette baisse des dons.
Merci, bonne fête à vous aussi.
Au revoir.
Bonne journée à vous. Merci.
C'est le constat inquiétant de France Générosité qui regroupe les acteurs de la philanthropie.
Alors Pierre Siquier, donc je suis président du syndicat France Générosité, qui regroupe donc 97 associations et fondations qui font appel à la générosité du public. Parmi lesquelles, je sais pas, ça va de AFM Téléthon, en passant par Handicap International, ou le Secours Populaire, ou bien la Fondation de France.
Beaucoup d'organisations qui sont récipiendaires de l'aide des Français pour la solidarité.
Avec un record l'année dernière.
Avec un record l'année dernière, effectivement. Bon, alors cette année, on est un peu dans une année plus compliquée, puisqu'il y a transformation de l'ISF en IFI, qui là, a coûté 150 millions. En tous les cas, en collecté, on est à la moitié, c'est-à-dire à 55% de collecté.
En moins.
En moins, oui, tout à fait. 150 millions cette année en moins par rapport à 2017. Ça fait beaucoup de sous pour les associations et les fondations.
En fait, c'est un effet collatéral de la suppression de l'ISF, c'est-à-dire que là, ça pénalise la solidarité.
Sur l'ISF, oui, c'est vrai que c'est un effet collatéral, comme vous dites, exact. Mais il faut reconnaître que les Français ont quand même continué à donner. Le don et la générosité restent très ancrés dans la psychologie française quand même. Hein.
Mais un classique qui vous me dites, oui, les Français ont continué à donner, heureusement, sauf les 0,1% qui n'ont pas donné.
Alors oui, c'est vrai, ceux-là, il va falloir, on espère qu'ils vont reconvertir le gain qu'ils ont fait sur l'ISF, sur l'impôt sur le revenu, puisque c'est déductible là aussi à 66%. Donc on va voir si les gens ont joué le jeu complètement ou pas.
Je vous cite, « Ce que nous pourrions souhaiter, c'est un sursaut des contribuables qui ont vu leur disponibilité augmenter avec la suppression des impôts sur les valeurs mobilières ou autres assurances-vie.
Oui, » bah c'est ça.
C'est souhaité, quoi.
Bah, c'est-à-dire que, oui...
Là où ils avaient auparavant un avantage, oui. C'est ça qui apparaît maintenant avec cette fois, c'est que c'était pas uniquement par grandeur d'âme, mais c'était aussi par intérêt financier, que là, maintenant, on attend que...
Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que les gens qui payaient l'ISF, c'est vrai qu'ils ont, eux, gagné beaucoup d'argent avec la suppression de l'ISF. Donc, ce serait bien que le civisme fasse son chemin et que ce qu'il donnait avant, même non déductible, il le donne quand même. Donc ça, ce serait bien, oui. Alors, on va voir. Je ne suis pas absolument convaincu, mais nous verrons.
Et du coup, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver du côté des Gilets jaunes qui, eux, réclament l'ISF? C'est devenu un des mots d'ordre pour la justice fiscale. Rendez l'ISF et que tout le monde paye son dû.
Oui, c'est pas nous, on fait pas de politique. Hein.
Je sais bien, je sais.
On va pas se prononcer sur l'ISF versus l'IFI.
Parce que vous dites, on va voir, on attend, mais en attendant, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, le Secours Catholique et 92 autres associations que vous représentez, eux, ont du mal à joindre les deux bouts.
Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez pervers, je dirais, aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit très rattrapable. Ouais. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens qui donnaient au travers de l'ISF vont redonner au travers de l'IR, par exemple, avant la fin de l'année. On espère, mais c'est pas du tout évident.
Si je tombais dans la misère, dit fréquemment Monsieur le Baron, il y a presque des jours où je l'espère, les gens du monde me comprendront. J'aurais enfin la vie rêvée que connaissent les pauvres gens, débarrassés de la corvée et des éternels soucis d'argent. La fortune est un esclavage. Il ne faut pas vous y tromper. Il faut beaucoup plus de courage pour vivre riche que ruiné. Dire que les ouvriers se plaignent, on se demande bien de quoi. Pour loger à la même enseigne, je donnerais n'importe quoi. Gérer sa fortune soi-même est un calvaire de chaque instant. Les ouvriers qui nous critiquent ne connaissent absolument pas quels bourreaux sont nos domestiques. Eux ne les supporteraient pas. Ce sont tous des gens qui nous volent, qui ne nous créent que des soucis. Il y faut une patience folle. Ils sont tous mauvais par ici. Si je tombais dans la misère, je remercierais le Seigneur de me donner ce que j'espère, car les pauvres gens ont du cœur. Je ne les connais que par ouï dire, mais il paraît qu'ils sont très bien. S'ils imaginaient mon martyre, ils ne m'envieraient plus de rien. Ils savourent 6 jours par semaine le plaisir du travail bien fait. Ils mangent très peu, gagnent à peine, mais ils s'en contentent. Et je sais, je le tiens d'amis très intimes, qu'avec 300 000 francs par mois, un ouvrier peut fort bien vivre. Et dire encore du mal de moi.
Comme un bruit qui court.
Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Et puis il y a une deuxième erreur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique.
Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aide à créer des emplois.
Les gens ont senti dès le début que c'était obscène, cette histoire. Et ils ont bien raison.
Frédéric Lordon.
Macron fait son allocution et il nous dit il faut soulager nos gentils riches de l'ISF pour qu'ils puissent financer l'investissement, la croissance, etc. Bon. Et en effet, lorsque une entreprise veut investir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a deux solutions. Elle va à la banque pour obtenir un crédit ou bien elle va à la bourse pour émettre des nouvelles actions. Bon. Regardons-y quand même à deux fois. Quel est le volume des actions nouvellement émises par an? En 2014-2015, ça tournait autour de 10 milliards d'euros, les nouvelles actions émises. Quel est le montant total de l'investissement des entreprises? 260 milliards d'euros. Donc, d'un côté, l'investissement total 260 milliards d'euros, de l'autre, les actions nouvellement émises, c'est-à-dire la contribution de la bourse à l'investissement total, 10 milliards d'euros. 260, 10. La bourse contribue pour 3,8% au financement de l'investissement. Donc tout de suite, ça calme l'enthousiasme et on retient nos cris de joie. Mais allons plus loin. L'activité de la bourse ne consiste pas seulement en ces 10 milliards d'euros. Donc, question suivante, avec quoi la bourse s'amuse-t-elle pour le reste de son temps? La réponse est qu'elle s'amuse à la circulation des actions qui ont déjà été émises dans le passé, dont l'effet de financement de l'économie est donc consommé, et le volume global de toutes ces actions avec lesquelles elle joue, ce qu'on appelle la capitalisation boursière, c'est 3300 milliards d'euros. Je dis que l'effet de financement de ces actions est consommé, puisqu'on ne parle pas d'actions nouvellement émises, mais d'actions qui ont été émises dans le passé et qui circulent à nouveau, toujours à des fins de plus-value, n'est-ce pas ? Donc, ces 3300 milliards d'euros sont la ressource du tourniquet spéculatif qui fait passer les titres de main en main, mais de quelles mains ? Les mains des investisseurs financiers. Toutes ces transactions, les entreprises n'en voient plus la couleur. Là, on est vraiment dans le jeu spéculatif pur qui n'a plus aucun rapport avec les problèmes des entreprises, de leur financement, de leur investissement, etc. Donc, de nouveau, d'un côté, nous avons la contribution de la bourse au financement réel de l'investissement par le truchement des actions nouvellement émises, à savoir 10 milliards d'euros. Et de l'autre, nous avons la grande lessiveuse spéculative qui tourne pour rien, sinon pour la plus-value des investisseurs financiers, qui fait 3300 milliards d'euros. 10, 3300. Donc là, on a vraiment dépassé la recette du pâté d'alouette. Dans la part de l'activité globale de la bourse, il n'y a que ces 10 milliards, c'est-à-dire 0,3% des 3300 milliards qui sont utiles à l'investissement. Donc, l'argument selon lequel il faut supprimer l'ISF pour encourager le financement de l'investissement et des entreprises est un enfumage de très haute qualité.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner.
Moyennant quoi, rendu à ce stade, il nous reste une conclusion à tirer. Cette analyse permet-elle de nous éclairer quant à la nature réelle du projet politique porté par Macron ? Tu te souviens de ce meeting qui était intervenu assez tôt dans la campagne, que Macron avait terminé comme un putois qui s'est coincé la queue dans une porte en glapissant parce que c'est mon projet !
Parce que c'est notre projet !
Eh bien, à la lumière de cette analyse, on peut en effet qualifier ce qu'est son projet. Son projet est... c'est de sécuriser la richesse des riches. Je sais que ça n'est pas un scoop, mais au moins on peut l'articuler à une analyse économique et puis on peut qualifier à l'os. Donc, l'ISF au centre et en avant.
Vive la République !
L'ISF au centre.
Vive la France !
Et en avant.
Comme un putois qui s'est coincé la queue dans une porte avec les commentaires sportifs donc de Frédéric Lordon, l'ISF au centre et en avant, le match n'est pas terminé, Give.
Oui, vous pouvez retrouver la vidéo complète dont nous avons tiré cet extrait sur le site de l'émission. Et vous, si vous avez encore une semaine, si vous voulez faire des dons déductibles de l'impôt sur le revenu, cette fois-ci, à la place des riches qui ne contribuent donc plus, eux, à l'ISF.
Mais heureusement, il y a aussi des ex-assujettis à l'ISF et donc heureux gagnants de la suppression qui savent encore ce que veut dire solidarité et partage des richesses, Charlotte.
Patron de 5 bars-restaurants à Paris, Xavier de Namur est un chef d'entreprise prospère. Et pourtant, lui aussi milite pour le rétablissement de l'ISF, la suppression du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et de la flat tax, des mécanismes qui mettent la République en miettes et ne servent qu'à enrichir les plus riches. Et cette fois, c'est un patron qui en bénéficie qui nous le dit. Direction Les Philosophes, l'un de ses bistrots dans le quartier du Marais, à Paris.
Bien inséré, s'il vous plaît, inséré.
On est au Philosophe, un bar-restaurant dans le Marais, dont le patron est Xavier de Namur.
C'est moi, c'est
un homme très occupé qui court un peu partout.
Ouais, quitte à Pierre Manuel qui descend le contrat. En fait, le mec, il est parti, il est même pas passé par le bureau, il est passé directement en cuisine.
Il y a un grand miroir dans le fond sur lequel il y a écrit « Exigez le vrai fait maison ».
On cherchait le mec partout, il est dans la cuisine. Bon, allez, on y va. On peut pas dire que ce soit le bon air pur de la Suisse où on plante son pognon, mais il fait bon respirer quand même dans Paris, non?
Donc là, on est dans le Marais, rue Vieille du Temple.
Enfin, moi, ça fait 30 ans que je suis là.
30 ans?
30 ans, ouais.
On était au Philosophe.
Ouais, là, on est devant le fer à cheval. C'est ma première affaire, j'ai signé en juillet 89. C'est symbolique, juillet 89. Il y en a certains qui ont oublié l'histoire de France. Ils devraient s'en rappeler. Parce qu'au bout d'un moment, quand on exagère, quand on tire trop sur la corde, les premiers de cordée, là-haut, planqués dans les alpages, ben, au moment, la corde, elle peut péter. Ils devraient s'en rappeler.
Ça, c'est le premier de vos bistrots?
Ouais, c'est le premier.
Et en face, il y a la Belle Hortense.
C'est une librairie-galerie.
Du coup, ça vous fait combien de bistrots, là?
5
5
L'étoile manquante, la chaise au plafond.
Alors depuis 89, petit à petit, vous avez racheté un par un.
Un par un, les cinq, comme la main de Fatma, ça porte chance. Ça fait aujourd'hui pas loin de 70 salariés pour un chiffre d'affaires qui approximativement 8 millions d'euros hors taxes à peu près.
8 millions d'euros.
À peu près, ouais, un peu moins peut-être, dans ces eaux-là. On considère qu'il reste à peu près 7% de marge nette à la sortie, avant impôt. Donc ça va me laisser quand même 600-700 000 euros.
J'imagine que vous avez des comptes offshore avec des sommes.
Alors, j'en ai jamais eu. On m'a proposé des fois de faire de ce qu'on appelle de la défisque et j'ai toujours refusé.
Ah ouais?
Je considère qu'il faut donner sa quote-part à l'État. Si tous les riches donnaient, bah on donnerait tous un peu moins et on aurait tous un peu plus de ressources pour participer. Surtout un truc qui est le plus important, c'est quand même le problème de la transition écologique au niveau mondial et européenne et française bien sûr. Et donc je prends un petit bistrot et je démarre avec les moyens du bord en ne connaissant rien, en prenant le système tel qu'il est et je vais essayer après de l'intérieur de faire changer le système. En étant libre, toujours.
Il n'y a pas d'actionnaire chez vous?
Il n'y a aucun actionnaire, je suis le seul, je suis tout seul, je suis dans aucun syndicat, aucune organisation patronale, aucune ONG, je suis seul, contre tous, mais c'est pas grave.
Hop. On paye des impôts, c'est pour avoir des retraites, c'est pour avoir des écoles, c'est pour avoir un système de santé. Ils défilochent tout ça.
D'un moment, les cordes, elles peuvent péter.
90% de la population se partage moins de 10% des ressources. Et moins de 10% de la population se partage plus de 90% des ressources. Quand on est autour d'une table et qu'il y a 10 pommes, et qu'on est 20, tout le monde a une moitié de pommes. Il n'y en a pas deux qui se partagent toutes les pommes et les autres les pépins. Ça peut pas durer.
Comment ça va, camarade?
Ouais,
ça va.
Merci.
Ça grince des fois la France. C'est Charlotte, Madame Martin. Madame Martin.
Bonjour.
La comptable. Ça c'est mon bureau, c'est le bordel, c'est normal.
Donc moi, je suis venue vous voir aujourd'hui.
Oui.
Parce que là, ça va faire un an qu'Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF.
Pour le réduire à l'IFI, sur la fortune immobilière uniquement.
Mais vous étiez assujetti à l'ISF?
Toujours, j'ai toujours été assujetti à l'ISF, bien sûr.
Du coup, ça vous a fait quand même faire des économies, cette suppression?
C'est pas parce qu'à titre personnel, vous gagnez quelques milliers d'euros que vous devez être d'accord sur des lois qui vous paraissent iniques et injustes et mal équilibrées et peu équitables et non d'intérêt général pour l'intérêt du pays. Donc... moi, c'est pas parce que ça me fait gagner, par exemple, je pense, quelques milliers d'euros que je vais être d'accord. La TVA dans la restauration m'a fait gagner presque 300 000 euros par an. J'étais contre. Bien sûr, j'applique la TVA comme dit d'appliquer, mais je suis pas d'accord.
Mais alors, donc, je crois, en payant auparavant l'ISF, en payant vos salariés correctement, ouais, en payant vos impôts en France, en...
Madame Martin, vous pouvez me sortir mon impôt sur le revenu et mon ISF, vous l'avez? Ouais, les derniers.
En payant tout ça en France, vous vous en sortez quand même, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, on s'en sort pas, on croule.
Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. En 2012, vous aviez, juste avant les élections, on devait être en octobre-novembre 2012, Maurice Lévy, alors que Sarkozy était un peu en ballotage, ça commençait, on sentait que ça commençait à sentir un peu le roussi, donc ses premiers de cordée là-haut commencent un peu à baliser, et Maurice Lévy, patron de Publicis, la plus grosse boîte de com d'Europe, troisième du monde, dit « Oui, nous, patron, il sort une sorte de manifeste qui va être signé par des riches, Bettencourt, Riboul, patron de Danone, etc. Et dit, nous, riches de France, on veut payer 4% d'impôts en plus pour participer à l'effort national. Sauf que ces boîtes et ces grands patrons très riches qui se payent beaucoup en dividendes, etc. et tout, ne payaient à l'époque à peine 10 à 15% d'impôts. Avec tous les dispositifs qu'on avait d'optimisation fiscale, de ce que qu'on veut, bah, ils payaient très peu d'impôts. Même sous Hollande, quand on a conservé le bouclier fiscal sur l'ISF, pour que les mecs, ils ont des patrimoines colossaux, ne paye pas d'impôts sur l'ISF. Et comme ils s'organisent pour pas avoir de revenus ici, il n'y a pas d'impôts puisqu'ils n'ont pas de revenus. Donc ils peuvent avoir des milliards, ils n'ont pas d'ISF. C'est quand même délirant. Donc du coup, quand ils disent payer 4% en plus, je leur dis non. Et d'ailleurs, c'était, je me souviens, j'avais une discussion, c'était avec le patron de Danone devant la librairie en bas, Franck Ribou, et qui me dit, ouais, t'exagères, on en paye déjà beaucoup. Tu me prends pour un con.
Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre. Et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF. Car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible. Et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith.
Moi, j'ai encore soif. Quand on met en place des dispositifs comme la flat tax, quand on baisse l'IS, l'impôt sur les sociétés, quand on pérennise le crédit d'impôt compétitivité et l'emploi, que j'appellerais pour les salariés crédit d'impôt pour la compétitivité et l'enfumage, parce que tous les patrons ramassent du pognon.
20 milliards.
20 milliards par an. Et pendant ce temps-là, ils créent aucun emploi. Et surtout, c'est des dispositifs qui maintiennent surtout les gens dans des bas salaires. Vous savez qu'on a déjà des allègements, ce qu'on appelle Fillon, sur les bas salaires, jusqu'à 1,6 le SMIC. Donc dès le moment où vous augmentez vos salariés, vous perdez vos allègements et vos aides. Donc les grosses boîtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent tout le monde en bas. Donc par exemple, le CICE, dès 2014, j'ai dit qu'il était mal foutu ce truc-là et qu'il fallait le conditionner et le plafonner. De sorte qu'on ne se retrouve pas avec des boîtes comme Carrefour, qui ont pris sur 5 ans 700 millions d'euros pour finalement que tous leurs actionnaires en Suisse ramassent beaucoup de pognon et que les autres ils restent toujours au SMIC et qu'ils ont licencié entre-temps sûrement plus de 4-5 000 personnes minimum. Pareil La Poste, ils vont donner 300 euros.
Ça prime comme
de 300 euros. Ils ont touché, eux, entre 2013 et 2019, ils auront touché plus de 2 milliards de CICE. Là, ils donnent une prime de 60 millions. Parce que 300 euros sur 200 000 salariés, ça fait 60 millions. Des grosses parts de gâteau pour les uns, des miettes pour les autres.
Noël avant l'heure donc dans les entreprises françaises.
Les patrons répondent présents à l'appel du président de la République en pleine crise des gilets jaunes. Appel à verser des primes qui seront exemptées de cotisations sociales.
Jackpot !
Et là donc les primes dont on parlait, c'est les primes parce qu'Emmanuel Macron a demandé aux grands patrons de bien vouloir faire des petits cadeaux de fin d'année.
Alors, les patrons qui ont fait ça, ils leur donnent quand même des miettes. Il faudrait aller voir qui a financé la campagne de Macron. Effectivement, le retour sur investissement est top. Tu mettais 7000 balles. T'avais, je crois que c'est le maximum, 66% d'abattement. Donc, ça t'a coûté 2500 balles. Avec la flat tax, si t'avais des actions, c'est jackpot. Macron, c'est jackpot. Alors là, c'est mon ISF. Toi, c'est fortune immobilière maintenant et l'impôt sur le revenu. Madame Martin, vous pouvez me donner, allez là encore, celui de 2017 aussi l'année dernière pour faire la différence. Voilà. On a lié.
Ça, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune ça, 2017. 2017. Donc, avant qu'il soit supprimé.
Non, et celui-là maintenant. Voilà. Et donc, je suis passé de 17 000. À 7 500, j'ai gagné 10 000 euros sur l'ISF et après l'impôt sur le revenu.
À 10 000 euros sur l'ISF déjà, vous devez être content quand même, qu'est-ce que vous en avez fait?
Mais moi, encore une fois, lorsque tu es riche, bon, je considère que je suis riche, en tout cas, je suis un gosse de pauvre, je suis un pauvre mais je suis devenu riche. Donc 10 000 euros, c'est rien par rapport aux gens qui ont fait peut-être là-dessus, sur ces trucs-là, 2, 3, 4, 5, 10 millions d'écart. Les gens, ils ont, moi, j'ai surtout de la fortune immobilière. Mais celui qui a principalement les grosses fortunes, c'est des actions, des choses d'assurance, etc. Donc ça, c'est des fortunes colossales. Et ben là, ils sont plus taxés. C'est pas normal. Et donc, ça serait intéressant de montrer même le CICE, parce que moi, mon CICE, il vient en déduction de mes impôts perso. Donc cette année, ça m'a fait économiser 99 000 euros d'impôts.
Oui. Ouais.
Salut, Madame Martin, bonnes vacances. Vous avez pris votre petite huile, c'est pour mettre dans les rouages.
Ah, c'est pour moi?
Bah oui, c'est pour vous, je vais monter.
Merci beaucoup.
Bon, bonnes vacances.
Merci.
Voilà où on en est. Alors qu'on aurait pu avoir une vraie incidence avec autant de pognon dans les PME, dans les TPE, surtout tous ces petits patrons, ces petits artisans, ces agriculteurs qui n'ont pas d'argent. Et eux, ils auraient eu le CICE. Ils auraient pu changer, moderniser leur labo, moderniser leur équipement, aller vers plus d'agriculture écologique. Ils veulent y aller, mais on leur donne pas les moyens. En plus, ceux-là, on leur retire. Si on parle d'agriculture, on va leur retirer leur maintien à l'agriculture écologique. Donc forcément, au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Au bout d'un moment, l'argent qui n'est pas là, c'est des deniers publics. Et ben le service public, il va à volo. Mais au bout d'un moment, ceux qui sont en bas, ben, ça craque. Et là, ça craque. Et si ça continue comme ça, ça recraquera. Parce que faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles.
Et Xavier de Namur a également réalisé un documentaire, La République de la Malbouffe, qui dénonce l'abaissement de la
TVA à 5% pour les restaurateurs, un documentaire qui est en accès libre sur Internet.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et les ronds-points que le bruit court, hashtag comme un bruit. Et c'est déjà Noël pour les salariés du Palace parisien, Parc Hayat Vendôme. Nous avions suivi leur mouvement de grève le mois dernier et aujourd'hui, après 87 jours de mobilisation, ils ont obtenu satisfaction. Joyeux Noël! Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h. Joyeux Noël!